Des rois, des sages, des devins, mais aussi des jeunes filles, des femmes, des déesses, un tambour, un fleuve, et de génération en génération, raconter, faire vivre, ne pas laisser disparaître, dire et dire encore, écrire parfois.
Pascal Paradou.
Comment découvrir une culture, un pays, une ville, en lisant et en se promenant? À l'occasion de notre séjour à Saint-Louis du Sénégal, à l'invitation de l'Institut français, alors que le fleuve bleu en cette saison coule vers l'océan, juché sur le pont Fédère, chef-d'œuvre de métal, je me suis souvenu de Mam Kouma Bang. Et prononçant ce nom, je découvre que Louis Camara a écrit son histoire. Louis Camara, romancier, novelliste, passeur de culture, détenteur du Grand Prix du président de la République pour les lettres en 1996 avec son roman Le choix de Laurie, et auteur de La fille de Mam Kumba Bang. Bonjour Louis Camara.
Bonjour Pascal.
C'est l'un de vos derniers livres et c'est un conte pour enfants. Est-ce que ce n'est que cela, une histoire pour les petits?
Je dirais plutôt pour les petits et pour les grands.
Mais on dit quoi à propos de Mam Kumba Bang? C'est une déesse, c'est un esprit, c'est une protectrice?
C'est tout ça à la fois, c'est une déesse, c'est un esprit et c'est aussi une protectrice. C'est la protectrice de l'île de Ndar, de l'île de Saint-Louis, je précise, hein, qu'on appelle aussi île de Ndar parce que Ndar, c'est le nom local de Saint-Louis.
Mais quelle est son histoire? Vous dites d'abord que ce fut une humaine.
Oui, d'après une certaine légende, parce qu'il y a beaucoup de versions évidemment, l'une des versions qui m'a le plus... intéressée, c'est celle qui dit qu'à l'origine, elle est de généalogie humaine. Elle vient d'une famille humaine et qu'elle aurait été volée par une djinn femelle. Une djinn femelle qui l'a substituée à son propre enfant. Mais puisque les enfants de djinn ne peuvent pas vivre parmi le monde des humains, le bébé génie qu'elle avait substitué au sien est mort la nuit même où elle avait fait l'échange. Par contre, Mam Kumba Bang, la petite humaine, la petite fille humaine, a survécu dans le milieu des génies et elle est devenue, voilà, au fil du temps, un être du lumineux, un être hybride à mi-chemin entre l'esprit et l'être humain.
Mais c'est une histoire qu'on raconte pour s'endormir ou elle fait un peu peur?
Les deux. Le sommeil, ça fait un peu peur hein, quand même. Hein.
Mam Kumba Bang, dont on avait parlé déjà ici dans cette émission et ici à Saint-Louis avec le conteur Zumba,
ah, oui,
et le président des pêcheurs de Quetnar, Mustapha Dieng.
Maniwule Tambalo, Maniwule Seyni Jobo, Maniwule Niwalani Makani, Maniwule Seyni Timbe, Sigil Ndama Timbeyo. Ça, c'est un chant dédié au génie, à la déesse protectrice de l'eau, Mam Kumba Bang.
Pour rendre hommage à Mam Kumba Bang, nous faisons des offrandes. Nous prenons notre pirogue depuis Guetnar, après avoir préparé un bon plat de couscous avec du lait caillé bien sucré. Nous entrons dans la pirogue tout le long de Saint-Louis. Nous déversons le produit dans le fleuve.
Le fleuve, il a une âme. Il y a de l'ésotérisme qui entoure tout ce que nous faisons ici, parce que voilà, le fleuve est ce qui nous lie tous.
Qui vit à Saint-Louis du Sénégal ne peut donc pas ignorer Mama Kumba Bang. Et vous êtes, Louis Camara, Saint-Louisien, puisque vous êtes né ici, vous avez enseigné à l'université Gaston Berger et vous vivez toujours ici. C'est quoi être Saint-Louisien?
Être Saint-Louisien, c'est se glisser dans l'âme qui caractérise cette ville, qui est une âme multiforme, n'est-ce pas? Elle a beaucoup d'aspects et il faut savoir les saisir et s'en approprier et s'en imprégner. Et c'est comme cela que l'on devient Saint-Louisien. Ce n'est pas seulement par la naissance, c'est aussi par la fréquentation des lieux, c'est par la connaissance de cet ésotérisme, comme le dit Mustapha, qui imprègne la ville tout entière.
Mais certains disent qu'être Saint-Louisien, c'est être un Français d'Afrique. Vous en pensez quoi ?
L'expression ne me paraît pas tout à fait convenir à la réalité saint-louisienne. C'est être en partie français, c'est vrai, parce que la colonisation française a commencé par Saint-Louis et le passage de la France à Saint-Louis et des Français a été particulièrement marquant, à tel point qu'un des plus grands écrivains sénégalais, en tout cas l'un des tout premiers, Ousmane Sossé Diop, a défini Saint-Louis comme, je le cite, « une vieille ville française ». Mais il ajoute « un centre d'élégance et du bon goût sénégalais ». Vous voyez donc qu'il y a l'équilibre entre les deux.
Alors c'est vrai que la ville a un riche passé architectural qui date de la colonie, de l'époque où Saint-Louis était la capitale de l'Afrique occidentale française. Au moment de l'indépendance, en 1960, vous étiez enfant. Est-ce que vous avez des souvenirs ?
Ah oui, j'ai beaucoup de souvenirs, même assez précis. Et justement, je profite de l'occasion de votre micro, vous m'en pardonnerez, hein, pour adresser un grand bonjour affectueux à mon premier ami d'enfance, celui que j'ai connu en premier comme ami, qui s'appelle Christian Abivin, qui était un petit Français dont la famille était voisine de la mienne. Et nous nous sommes quittés l'année même de l'indépendance du Sénégal, où sa famille a décidé de rentrer en France. Et ça a été un véritable déchirement. Nous nous sommes revus 52 ans après. Bonjour Christian. Et nous avions 10 ans.
Louis Camara, vous avez écrit vos mémoires ? J'ai pas l'impression.
Non, pas vraiment. Je ne sais pas si j'aurai le désir réel ou le temps de les écrire. Peut-être, c'est possible. Mais disons que j'ai laissé quelques éléments de biographie dans un roman que je viens de terminer, qui s'appelle « Au milieu des dunes ».
En attendant vos mémoires effectives, et avant de parler de votre œuvre, tout imprégnée de la culture yoruba, le saxophone de Baobab Orchestra dans De Vive Voix avec ce nouveau titre « Boulen d'Aimé ». Baobab Orchestra avec Idrissa Diop sur RFI, un invité de marque aujourd'hui, la mémoire vivante de Saint-Louis du Sénégal, où nous sommes actuellement. J'ai nommé l'écrivain Louis Camara. On évoquait la déesse du fleuve tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres figures tutélaires, à la fois dans la ville et dans votre œuvre qui est très importante, Louis Camara?
Mam Koumbabang, c'est une figure tutélaire complètement animiste. Je pense que c'est vraiment une des dernières survivances. Je n'en connais pas d'autres, personnellement. Il y a d'autres esprits, d'autres figures, mais qui n'ont pas l'aura ni l'envergure de Mam Koumbabang.
Alors, votre attachement à Saint-Louis est connu et vous l'avez rappelé, mais il faut dire que votre œuvre, essentiellement, s'inspire de la culture Yoruba, oui, qui n'est pas votre culture. Comment vous êtes tombé dedans, comme on tombe dans la marmite, si j'en crois Obélix, mon ancêtre, le Gaulois, du moins en bande dessinée?
Alors, c'est peut-être la même chose que vous m'est peut-être arrivé, ou que tous les Gaulois. Je suis tombé dans la marmite Yoruba, sans trop savoir comment. Et voilà, elle m'a complètement imprégné au point que je suis devenu un conteur Yoruba qui s'est inspiré des mythes et des légendes de la tradition Yoruba pour en faire des récits en français afin de les rendre accessibles à un public beaucoup plus large.
Et vous êtes un initié aussi ?
D'une certaine manière, oui. Oui, d'une certaine manière. J'ai même été sacré Babalawo of Sénégal.
Ça veut dire quoi, Babalawo, prêtre?
Oui, le Babalawo, c'est littéralement, cela signifie le père ou le maître des secrets. Babalawo. Donc, Awo, c'est le secret.
Alors, je ne vais pas vous demander quels sont les secrets de la culture Yoruba, même si ça me brûle un peu la langue, mais qu'est-ce qui caractérise cette culture Yoruba? Qu'est-ce qui a fait qu'elle vous a happé comme ça pour toute votre vie?
Sa profondeur mystique, je dirais, sa proximité avec un monde mythologique un peu oublié aujourd'hui, mais qui reste vivant encore dans le pays Yoruba, où l'on continue à célébrer les divinités, où la croyance animiste n'a vraiment pas disparu, même s'il y a, comme un peu partout ailleurs en Afrique, l'arrivée des religions monothéistes comme le christianisme et l'islam, qui sont, comme vous le savez, complètement opposées aux pratiques, à la croyance en des dieux multiples. Mais chez les Yoruba, en tout cas, il y a une cohabitation qui a pu se faire. Mais je pense que ça, c'est en grande partie liée à la capacité d'accueil de cette religion traditionnelle Yoruba, qui est toujours en position d'accueil, d'hospitalité.
Alors, je ne connais pas très bien votre œuvre et vos écrits, Louis Camara, mais j'ai feuilleté quelques pages comme ça de quelques-uns de vos livres, qui sont souvent des contes, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants terribles, d'enfants surdoués, de jumeaux, sachant que bonheur et malheur sont frères jumeaux et habitent dans la même case, dites-vous. Sinon, il y a des histoires d'hommes qui décident de prendre femmes, de femmes qui sont là pour enfanter, sachant que si ce n'est pas le cas, c'est forcément une histoire terrible. Est-ce que ce n'est pas un point de vue un peu conservateur sur la société d'aujourd'hui que de raconter ces histoires-là?
Oui et non. Oui, par rapport au point de vue moderne. Dans la société moderne, comme de normal, la femme tend à prendre son indépendance, son autonomie par rapport à un environnement qui lui a été imposé depuis des millénaires, par rapport à la puissance masculine. Hein. Donc maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de régions du monde où les femmes sont vraiment devenues autonomes, indépendantes, ont les mêmes droits que les hommes, les mêmes privilèges. Alors que sous nos cieux, ce n'est pas encore le cas. C'est loin d'être le cas. Et les femmes sont encore assujetties à des règles qui les enferment un petit peu dans une tradition qui n'est pas forcément à leur avantage. Et donc, cette culture a généré des légendes, des histoires qui nous permettent de comprendre un peu quelle est la situation des femmes dans ces sociétés-là. Je ne raconte pas ces histoires pour défendre ces points de vue. Hein. Ces histoires sont racontées simplement pour présenter la situation des femmes à cette époque, mais les magnifier aussi, hein. Parce qu'on voit bien, par exemple, dans l'histoire que vous avez, les deux histoires dont vous avez parlé, je vous parlais certainement de Yewa. Yewa, qui est une espèce de femme vestale, qui est la femme d'un demi-dieu qui s'appelle Orunmila, et qui garde le foyer pendant son absence, mais qui commet l'adultère à deux reprises et qui en a deux enfants. Et au retour de son mari, cependant, elle n'est pas punie pour ça. Elle n'est pas punie pour ça. Le mari, qui est quand même un homme d'une certaine stature, comprend pourquoi c'est arrivé. Mais par contre, il va tuer ses deux amants. Hein. Et cette femme, elle a vécu dans la souffrance, mais elle est quand même parvenue à élever ses enfants. Elle les a élevés dans la rigueur. Elle leur a donné une excellente éducation au point qu'ils eux-mêmes sont devenus plus tard des grands devins. Ça rejoint un peu la tradition grecque de Ulysse et Pénélope. Yewa, c'est une sorte de Pénélope.
Donc il y a des échos entre ces histoires mythologiques, finalement, de la Grèce antique ou de la culture yoruba ?
Absolument. Je pense qu'il doit certainement... je ne suis pas mythologue ni anthropologue, mais je pense qu'il doit y avoir un substrat commun à toutes ces mythologies anciennes, à toutes ces légendes immémoriales. Il y a certainement un lien entre elles. Hein. Oui, je trouve qu'il y a des similitudes entre Yewa et Pénélope, beaucoup. Même s'il y a des différences notables aussi.
Louis Camara, alors on n'est pas tout à fait dans la culture yoruba, me semble-t-il, avec l'un de vos derniers textes, Au milieu des dunes, mm-hmm. mais j'aimerais vous entendre lire un extrait de ce roman qui, en fait, est le tout début du roman.
À l'ouest de la ville de Saint-Louis, ou Ndar, si vous préférez, coincé entre l'océan et le fleuve Sénégal, s'étend une étroite bande de terre sablonneuse et aride sur laquelle poussent, de manière sporadique, quelques bosquets de filao. Là se trouve le quartier des pêcheurs de Guétnar. C'est en cet endroit que s'étend mon domaine, sur ces arpents de sable fin, où je règne sans partage sur une bande de chiens errants plus ou moins faméliques, mais libres et insoumis, qui se nourrissent des restes jetés par les habitants du village voisin et s'abreuvent de l'eau du fleuve tout proche, dans lequel il leur arrive aussi de se baigner pour se rendre propre. Si vous ne l'avez pas compris, je suis un chien sauvage. Je vais avoir 7 ans, ce qui, dans la vie d'un être humain, correspond à peu près à l'âge de la maturité.
Extrait de Au milieu des dunes, qui est donc là un roman plus surprenant, puisque le héros est un chien. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes un chien errant, Louis Camara ? Ce n'est pas un autoportrait.
ce n'est pas un autoportrait, certainement pas. C'est juste un masque. Alors vous savez, je fais comme tous les écrivains, donc je me choisis un masque, un narrateur, qui est moi et qui n'est pas moi en même temps, parce qu'il est mon porte-voix. Et pourquoi j'ai choisi un chien ? C'est un peu par, entre guillemets, un peu par provocation, parce que je vis dans une société où le chien est généralement pas forcément méprisé, mais où il ne bénéficie pas d'une considération particulière. Hein. Les chiens vivent rarement dans les maisons ici au Sénégal. À la limite, ils sont même pourchassés, ils sont chassés. Je trouve que c'est un animal qui a, d'abord pour cette raison, parce qu'il faut bien secouer aussi la conscience des lecteurs et leur faire prendre conscience que les animaux aussi font partie de la création, ils sont parmi nous. Et aussi parce que le chien est un animal qui a des qualités, en tout cas on lui attribue des qualités morales exceptionnelles, notamment la fidélité, n'est-ce pas, le courage aussi, la bienveillance également, et puis la perspicacité, qui peuvent en faire un bon narrateur.
Le chien fait partie de la mythologie Yoruba qui vous est si chère ?
Oui, le chien fait partie de la mythologie Yoruba. C'est l'animal consacré au dieu du fer et de la guerre, Ogun, une des divinités les plus considérées dans le panthéon Yoruba.
Louis Camarade, de ces contes, de cette mythologie Yoruba, qui est le substrat de votre œuvre, vous dites quoi ? Que vous avez procédé à des réécritures, à des transcriptions, à des traductions ?
J'ai procédé un peu à tout cela, parce que je ne suis pas natif de la culture Yoruba et je ne suis pas locuteur de la langue Yoruba. Donc je suis parti de textes. Je suis parti de textes transcrits, de textes oraux, transcrits en Yoruba et traduits le plus souvent en anglais, jamais en français. Mais c'est à partir de petits poèmes très courts que j'ai puisé mon inspiration. Et en procédant par ce qu'on appelle dans la théorie littéraire l'intertextualité, à partir d'un texte originel, par exemple pour ma première œuvre, mon premier texte intitulé Le choix Adjala ou Le choix de Lori, c'est complètement intertextuel. Je suis parti d'un poème d'une dizaine de pages pour arriver à un roman un roman conte, hein, parce que c'est de 140 pages. Donc il y a eu un travail de création, de recréation, mais à partir d'un noyau.
En changeant de langue, puisque vous écrivez en français, est-ce que ce déplacement et ce décentrement, finalement, permet de voir l'autre différemment et peut-être de voir l'autre mieux que si on appartenait à sa propre culture ?
C'est pas facile trop de répondre à cette question parce qu'il aurait fallu que je sois de la culture pour pouvoir y répondre de manière exacte. Mais le décentrement auquel j'ai opéré m'a permis de puiser sans retenue, disons, dans la culture parce que je n'avais pas de tabou ni d'interdit.
Une forme de liberté, donc.
J'avais une forme de liberté par rapport à ces textes qui sont à l'origine des textes sacrés, les poèmes d'Ifa. C'est la littérature d'Ifa, c'est la poésie d'Ifa. La poésie d'Ifa est une poésie sacrée. Et c'est à partir d'un de ces poèmes sacrés que j'ai désacralisé, mais sans le profaner, que j'ai créé mon histoire. Je pense même que j'ai approfondi parce que le fait d'user de la langue française m'a permis sans doute de lui donner plus d'ampleur et d'une certaine profondeur aussi du point de vue métaphysique.
Du rôle des écrivains, il y a plusieurs générations d'écrivains importants au Sénégal. Écoutez ce que dit Felwine Sarr, qui est un intellectuel engagé, économiste, musicien, auteur du rapport sur la restitution du patrimoine africain, écrivain bien sûr. Et écoutez ce qu'il disait à l'occasion de la sortie de son dernier livre, « Le bouddhisme est né à Koloban
». Sacré Felwine.
Certainement, j'écris pour faire œuvre de lucidité. Je pense aussi qu'il y a... Il y a l'idée que l'écriture, voilà, dans cette expérience de vie qui passe, l'écriture aide à faire trace, quoi, à laisser quelque chose dans le temps qui s'effiloche. Et je pense que fondamentalement, c'est une entreprise de transmission aussi, quoi. Donc être en lien dans le temps et dans l'espace.
Louis Camara, que pensez-vous de ce que dit Felwine Sarr, sachant qu'il a enseigné à l'université Gaston Berger, comme vous, donc vous avez été collègue,
hein ? Oui, oui, nous avons été collègues, mais nous avons même évolué dans la même UFR, qui était l'UFR CRAC, qui avait comme projet, comme ambition de mettre en avant, en relief, la connaissance africaine dans les enseignements.
Et donc, voilà. Écrire, est-ce que c'est faire trace ? Pour vous aussi.
Ah, certainement. Écrire, sans aucun doute, c'est faire trace. Rien que l'acte matériel d'écrire, on laisse quand même... voilà, maintenant, on fait trace avec les ordinateurs. Avant, on faisait trace avec la plume.
Mais oui, mais alors justement, oui. Est-ce qu'il y a un risque de perte de mémoire? Parce qu'on fait trace avec tout, avec les ordinateurs, avec le numérique, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi écrire?
Écrire pour, justement, pour conserver de manière plus fidèle, parce que la mémoire, elle ne l'est pas. Hein. La mémoire, elle est faillible, elle est fragile, elle peut disparaître. Elle transmet, bien sûr, aussi. Elle peut déformer, alors qu'avec l'écriture, on a quand même des traces solides, n'est-ce pas? Mais l'inconvénient qu'il y a aussi avec l'écriture, c'est que la mémoire délègue ses pouvoirs à l'écriture. Et on s'installe dans la paresse intellectuelle, on ne fait plus l'effort de mémoriser. Or ça, c'est un effort qui a toujours été constitutif de la transmission des cultures humaines. Avant l'écriture, tout se faisait de manière mémorielle, si j'ose dire. C'était la tradition orale.
Donc vous êtes inquiet de cette disparition, de cette perte d'une partie de la culture?
Oui, mais je dirais plutôt légèrement inquiet. Je pense que le génie humain est capable de trouver des solutions à cette problématique de la mémoire et d'arriver à concilier la mémoire orale à la mémoire écrite aussi, de les combiner. Ça peut très bien aller ensemble, c'est complémentaire. C'est comme aujourd'hui le livre papier et le livre numérique. Et je pense que les gens éclairés ou intelligents ou qui ont du discernement ou qui restent lucides savent très bien que le numérique est un instrument de plus pour développer les capacités de l'esprit humain.
Alors si on parle de transmission, d'enseignement, de littérature, quel avenir vous voyez-vous pour la langue française ici au Sénégal dans une société qui parle Wolof et de plus en plus, même si au programme de la seconde, il y a votre livre, Le choix de Laurie, mais aussi, et ça c'est quand même de mon point de vue un peu ubuesque, Les sonnets de Ronsard.
Eh bien, je pense que la langue française fait partie de notre héritage maintenant. Même si elle est venue dans les conditions que nous savons tous, mais les langues ne sont pas des va-t-en-guerre, n'est-ce pas? Les langues, ce sont des outils de communication, des outils de sagesse et d'amour aussi. Et donc, à tel point que le français est aujourd'hui devenu une langue que nous utilisons peut-être de manière un petit peu marginale, je dirais, pour des raisons plus intellectuelles que pour des raisons de communication ou affectives. Mais nos langues persistent, elles sont là. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'efforts faits pour en faire aussi des langues écrites, des langues de littérature. Mais à mon avis, il n'y a pas d'antagonisme. On peut très bien écrire dans plusieurs langues.
Hein. Et Ronsard au programme de seconde, ça vous semble comment?
Écoutez, ben, ça me semble intéressant. Je pense que c'est une manière d'explorer, d'approfondir sa connaissance de la langue française, de mieux la connaître, de savoir comment elle s'est constituée. Donc, quand on est un locuteur du français, je pense que c'est tout à fait normal.
C'est un ancêtre.
C'est un ancêtre, voilà. C'est un ancêtre, tout à fait.
Merci beaucoup, Louis Camara. On ne va pas citer tous les livres que vous avez écrits, mais on a parlé du Chant d'Ori, de La fille de Mame Koumambang ou de Yewa. Tous sont publiés ici au Sénégal, mais disponibles sur les plateformes numériques. Merci beaucoup de vive voix à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation, et on se retrouve très vite.